Bonsoir, la République démocratique du Congo s'achemine petit à petit vers la mise en place de son nouveau gouvernement. Le lundi de cette semaine, le président de la République a nommé le remplaçant de Ilunga Ilunkamba à la primature. Il s'agit de Jean-Michel Samalukonde, ancien ministre du gouvernement Matata Ponyo et dernièrement directeur général de la GECAMINE. Le second thème de notre débat de ce soir nous amène au Haut-Katanga, où la capitale Lubumbashi a failli dimanche dernier sombrer dans le chaos avec l'attaque des dépôts d'armes menée selon l'armée par le mouvement sécessionniste Bakata Katanga. D'après le communiqué publié ce même dimanche par l'armée, le bilan faisait état de 12 rebelles tués et 5 capturés. 7 armes individuelles et 4 armes collectives saisies, mais aussi des bombes, des chargeurs et des lance-roquettes récupérées. Et pour aborder toutes ces actualités, nous accueillons ce soir Nico Faimbika, journaliste au groupe de presse Le Monde et Top Média paraissant à Kinshasa. Nico Faimbika, bonsoir.
Bonsoir, estimé.
Mais aussi Thierry Bouongo, bonsoir.
Bonsoir estimés confrères et bonsoir à tous les auditeurs de la radio onusienne.
Journaliste et analyste politique et enfin Jean-Pierre Mutamba, éditeur en chef de l'hebdomadaire Vox Ubangi et correspondant du média en ligne Dépêche.cd en province du Sud-Ubangi. Jean-Pierre Mutamba, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à mes confrères co-débatteurs, bonsoir aux auditeurs de la radio Capi.
À tous, bienvenue dans votre émission. Nico Faimbika, journaliste au groupe de presse Le Monde et Top Média, paraissant à Kinshasa. Votre commentaire libre.
Hier, on a assisté la population de Kinshasa en général et celle de la commune de Bandalungwa à constater l'érection d'un truc dans la commune de Bandalungwa. On se demandait quand est-ce que cela avait été érigé. Mais après plusieurs questions et des questions qui allaient dans des sens diverses, il est comblé que le gouverneur affirme que c'est un truc qui avait été érigé par les Bougonesses, mais les Bougonesses qui ne reconnaissaient pas cela.
Le truc en question, c'est un bâtiment, c'est...
Bon, un truc a la forme d'une colonne. Mmh. Mais au final, ce n'était même pas en béton, mais c'était en métal.
Okay.
C'était en métal. Mais on est arrivé à les détruire avec le feu. On l'a détruit avec le feu.
C'est vraiment bizarre.
Bizarre. Difficile à expliquer. Difficile à dire et à expliquer.
On en saura probablement un peu plus tard avec le temps. Thierry Bouongo, journaliste et analyste politique, votre avant-goût informationnel.
Bon, j'aimerais d'abord rebondir sur ce que Nico a avancé. Selon certaines investigations, il semblerait que le bâtiment, la bâtisse en question, qui se faisait appeler monolithe de Bandalungwa, n'était pas
une espèce de colonne.
C'était plutôt une sorte de pancarte publicitaire qu'aurait érigé l'un des frères du bourgmestre de la commune de Bandalungwa, et faisant fait de la mode comme étant que il y a des monolithes qui apparaissent par-ci, par-là dans le monde. On a voulu braquer les projecteurs sur la commune de Bandalungwa à travers cela. Mais selon certaines investigations, ce ne serait pas un monolithe vrai, parce qu'un monolithe est une manifestation naturelle. Ce n'est pas des gens qui viennent le déposer sur place. Et ce n'était pas cela. Et le bourgmestre semblerait être aussi dans le coup pour attirer des regards sur sa commune. Bon, c'était un petit complément. Ce que moi j'aimerais donner comme fait informationnel, c'est mon petit ras-le-bol sur cette mesure qui perdure, mesure de qu'on appelle couvre-feu, hein, le couvre-feu qui débute à 21h à Kinshasa et qui semble être présenté comme une solution pour la lutte contre la propagation du Covid-19, semble être une pure farce, si je me trompe, parce que dites-nous entre nous, est-ce que en réfléchissant, vous êtes sûr que le taux de contamination est augmenté à partir de 21h à Kinshasa, ou ce taux de contamination ne serait pas constant dans la ville pendant les jours de la pendant les heures de la journée où les gens circulent à forte intensité, où les gens fréquentent les bus, fréquentent les différents bureaux, les différents marchés. ce serait à ces endroits-là que, en principe, à ces moments-là plutôt qu'en principe, la contamination devrait être plus élevée. 21h, c'est l'heure où les gens rentrent chez eux. Quelques petits badauds ou quelques petits citoyens poussent la coule douce dans les terrasses de la capitale, mais une grande partie des Quinois se trouve dans les lieux d'habitation ou en route pour ces lieux d'habitation. Et donc je trouve que c'est une supercherie que de penser que instaurer un couvre-feu pour les Quinois en se basant sur des modèles étrangers serait, semble-t-il, une solution à la lutte contre le Covid-19. Kinshasa a ses mœurs, Kinshasa a ses us, ses coutumes, à sa façon de fonctionner. Il ne faudrait pas qu'on puisse copier n'importe quoi sous prétexte que ça marche mieux ailleurs. Chez nous, à Kinshasa, à ces heures-là, il n'y a pas forte circulation comme il y en aurait au cours de la journée. Soit, je serais d'avis que le gouvernement puisse vraiment revoir sa mesure en ce qui concerne le couvre-feu, parce qu'il y a beaucoup de petits commerces, beaucoup de petits commerçants. Vous savez que le Quinois vit en grande partie dans le secteur informel. Beaucoup de commerces sont en péril à partir de ces heures-là. Et Nico Fay l'avait tant bien martelé la dernière émission.
La semaine dernière.
Jusqu'à présent, aucun plan de redressement économique connu et publié pour pallier aux effets négatifs du Covid-19 sur l'économie, surtout informelle en RDC.
Merci Thierry Bouongo. Jean-Pierre Mutamba, éditeur en chef de l'hebdomadaire Vox Ubangi et correspondant du média en ligne dépêche.cd en province du Sud Ubangi. À ce stade de notre émission, Jean-Pierre, quelle actualité non encore abordée souhaitez-vous partager? Peut-être une actualité locale du Sud Ubangi.
Oui, concernant l'actualité locale dans la province du Sud-Ubangi, je rappelle ici que ça fait plus de 2 décennies que nous n'avons pas connu des travaux de route dans la province du Sud-Ubangi. Ça fait actuellement depuis 3 mois que l'OVD est en train de réaménager les grands artères de la province du Sud-Ubangi, les artères qui étaient autrefois d'une dimension de largeur tout simplement de 8, soit 6 mètres seulement. Aujourd'hui, les grandes artères sont vraiment visibles avec à peu près 14 mètres de largeur. Donc c'est un ouf de soulagement pour la population. C'est sur fond de fonnerre que la population ne cesse de remercier le chef de l'État. Et aussi, il y a une grande actualité, laquelle les sénateurs Makila Soumanda José, qui, à partir de son fief dans le secteur d'Nguya, qui est en train de réhabiliter sur ses propres fonds, c'est vraiment étonnant, au moins 214 kilomètres de route de dessertes agricoles, donc de fleurs sont jetées ici et là. Voilà un peu l'actualité sur le plan infrastructure routière de la province du Sud-Ubangi.
Merci Jean-Pierre Mutamba, et c'est dans la foulée de ces très bonnes nouvelles pour la province du Sud-Ubangi que nous lançons le débat de ce soir. C'est depuis le lundi que le suspense a été levé au sujet de l'identité de la personne qui remplace désormais Ilunga Ilunkamba comme premier ministre de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a décidé que ce sera Jean-Michel Sama, ingénieur de formation et ancien ministre dans le régime de Joseph Kabila. Redécouvrons ensemble, une fois encore, le portrait de l'actuel premier ministre de la RDC.
Jusqu'à sa nomination, Sama Lukonde Kyenge fut directeur général de la Générale des Carrières et des Mines Gécamines. Né le 4 août 1977 à Paris en France, il est fils de Faustine Mwansa et de Stéphane Lukonde Kyenge. C'est en 2006 qu'il a entamé son parcours politique comme député national jusqu'en 2011. Il rentre au gouvernement central par nomination en 2014 en qualité de ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Durant son mandat, il lance les travaux de construction des stades municipaux qui resteront lettre morte à travers la ville de Kinshasa. Aussi, sous son règne, les Léopards Football remportent la 3e place lors de la CAN Guinée-Équatoriale en 2015. Consécutivement à ses fonctions, il est désigné président de la conférence des ministres de la jeunesse des pays membres de la francophonie. En septembre 2015, il démissionne de ses fonctions de ministre des Sports pour obéir à la consigne de son parti Avenir du Congo, exclu de la majorité présidentielle, pour avoir protesté contre un éventuel 3e mandat de Joseph Kabila. Il a alors milité au sein de l'opposition sous le leadership de Moïse Katumbi dans la coalition G7 qui regroupe les 7 partis frondeurs de l'ancienne majorité présidentielle. Quelques mois avant les élections de 2018, il s'est désolidarisé de Moïse Katumbi pour soutenir avec le président de son parti, Danny Banza, Félix Tshisekedi, au sein du rassemblement de l'opposition, puis lors de sa candidature à l'élection présidentielle. Samalou Kondé est ingénieur de formation, diplômé en 1996 en chimie industrielle à l'Institut technique de Moutouchi, en 2020 en informatique technique de l'information en Afrique du Sud, ainsi que l'université de Lubumbashi en chimie, option inorganique et métallurgie en 2006.
Merci à Billy Ivan Lutumba. Alors Nico Faye, nous venons d'écouter l'essentiel du portrait de l'actuel Premier ministre, mais plusieurs autres noms avaient circulé avant que l'oiseau rare, entre guillemets, ne nous soit définitivement présenté et désigné par le président de la République, Moïse Katumbi, Christian Mwando, Jean-Pierre Liaou et beaucoup d'autres noms. Finalement, ce sera Jean-Pierre Sama. Votre commentaire.
Mais vous savez que non, avant toute chose, je dois procéder au rappel national. Il faut que le peuple se mette en tête qu'il reste 1046 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 608 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État et 448 jours depuis que Covid-19 s'est déclaré officiellement au Congo. Oui, ce que nous devons retenir, vous savez que non, nous sommes pendant une mandature est aussi régentée par les lois de la République. À ce jour, nous devons retenir que il y a eu un long moment de turbulence politique en RDC. Il fallait au moins que les choses s'éclaircissent. Voilà, nous assistons à la nomination d'un premier ministre qui est nommé. Je n'aimerais pas, par le temps qui court, relever les irrégularités, l'anarchie qui a entouré sa nomination, mais vu l'état actuel de la République démocratique du Congo, j'aimerais d'abord vous dire qu'il faut que le premier ministre actuel se mette vite au travail. Le Congo n'a pas besoin de ces verbiages, le Congo n'a plus besoin de ces discours. L'air peut-être au travail, tous les secteurs de la vie congolaise sont indispensables et prioritaires. À ce jour, je vous rappelle que nous en sommes à 2 ans, 10 mois et 10 jours pour la tenue de nouvelles élections. Nous posons la question à ce stade.
Alors, vous qui aimez les choses pratiques, parce que tout le temps vous nous rappelez justement ces choses pratiques, nous venions d'écouter justement les éléments qui caractérisent la personne de Jean-Michel Sama. Est-ce que il semble, selon vous, être la personne qu'il fallait mettre à cette place, vu les attentes que vous présentez déjà ici et que vous rappelez régulièrement dans les émissions?
Non, à ce stade, je ne sais pas moi vous dire si il faut une telle ou telle personne. Moi, je pense, nous avons connu toutes sortes de personnes à la tête des institutions de la République. Et moi, je pense. Et moi, je ne
Voilà, la communication n'est pas très facile aujourd'hui avec Nico Faye. Thierry Bongo, un peu la même question. Est-ce que le profil de Samalou Kondé Et finalement, le bon profil réclamé pendant autant de fois par la population congolaise et même par l'élite de la RDC, ou bien vous pensez comme d'autres que puisqu'il a déjà été ministre dans le passé, il ne va pas spécifiquement être fantastique selon les attentes?
Non, je crois que faire un jugement a priori de Samalou Kondé serait vraiment agir en termes de divination. Ça serait se comporter en devin. Je crois que la RDC n'a pas été avare de ministres ou de premiers ministres au CV, au pédigré bien élaboré. Nous avons eu des ministres avec des compétences sur le papier totalement avérées. Là n'est pas la question. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui n'avait pas marché avant et qui pourrait marcher avec Samalou Kondé. Nous avons senti que le président de la République avait fait de son mieux pour, avait voulu de prime abord récupérer sa majorité au Parlement pour faire passer ses réformes à lui. Il ne voulait pas avoir un Premier ministre qui représentait une force qui pouvait être un contrepoids par rapport à ses actions. Est-ce que cette question-là est résolue? On se pose des questions parce que, bon, positivement, on peut dire que Samalou Kondé, c'est un jeune, il représente la jeunesse, 43 ans, 44 ans cette année, c'est quand même un souffle nouveau, il représente le renouveau, il représente la nouvelle classe politique. Samalou Kondé, c'est un technocrate, c'est pas un ministre qui vient avec un apprentissage à faire sur le terrain, il a déjà l'expérience du cabinet ministériel, il a la technicité liée à ses études, c'est un homme de conviction politique, vous l'avez suivi, hein, il a quitté le gouvernement pendant qu'il était ministre, pour suivre une conviction politique qu'incarnait son groupe.
Mais Thierry Bongo, est-ce que tous ces éléments...
Félix Tshisekedi va trouver en Samalou Kondé le répondant, l'homme qui va faire passer ses réformes, faire passer ses idées sans qu'il ait contrepoids, sans qu'il ait contradiction?
Alors, justement, en ayant soulevé les éléments que vous avez soulevés vous-même, là, vous pensez que Samalou Kondé pourra, justement, fonctionner avec le président de la République en toute harmonie et qu'il pourra, justement, réaliser des objectifs visés par le président de la République tel qu'il le voudra, comme il le voudra?
Il a de bonnes compétences, certes, mais c'est justement là où moi je suis un peu dubitatif parce que Samalou Kondé s'affiche comme étant ancien membre du gouvernement, ancien proche de Katumbi, maintenant proche du cash avec son parti et Danny Banza. Est-il aussi constant que cela? On craint aussi des rapprochements avec la famille Kabila. Vous savez que Samalou Kondé, c'est un pur fils du Katanga. Et la famille Kabila, il y a vraiment de grandes ramifications. N'y a-t-il pas aussi quelque part une certaine liaison entre lui et la famille Kabila? Il faut que ce soit clair et net dès le départ, parce que déjà, on s'entendait à ce que la primature revienne à Ensemble pour le Changement. Mais si il s'avère que ce n'est pas Ensemble pour le Changement qu'il est et que c'est Cash qu'il a, donc on peut dire que maintenant le président de la République a à la fois la présidence, le Parlement et aussi cette fois-ci le gouvernement tout entier, dont tous les créneaux pour réussir sa politique. Mais il faut que ce soit clair et net, que Samalou Kondé nous dise clairement dans quel camp politique il appartient, pour qu'on puisse se faire une idée claire de la marche à suivre ou du jugement à porter sur ses actions.
Alors, à ce stade, en attendant justement cette clarification, vous pensez, avec peut-être votre enquête préliminaire de journaliste, qu'il pourrait subir plus l'influence de quelle personnalité ou de quelle famille politique? Est-ce beaucoup plus Kabila? Est-ce Katumbi? Est-ce son mentor Danny Banza ou quelqu'un d'autre qui est tapis dans l'ombre?
Eh bien justement, si vous suivez mes propos bien avant, vous comprendrez que je suis moi-même en train de vouloir comprendre quelle sera sa démarche claire, parce que on regarde toutes ces ramifications, tous ces liens qu'il incarne. Hein. Il incarne à la fois Cash, il incarne à la fois Danny Banza, il incarne à la fois le grand Katanga et l'influence du camp Kabila. Et donc, c'est ces actions qui vont déterminer quelque peu ce que sera effectivement ce Premier ministre, un Premier ministre qui nourrit beaucoup d'espoir. Moi qui vous parle, j'espère vraiment qu'il puisse réussir, parce que le temps n'est pas pour lui, il n'a plus que 2 ans pour faire ses preuves. S'il résiste à ces deux ans à la tête de la primature encore, il y a beaucoup d'attentes en termes de la participation de la jeunesse, il y a beaucoup d'attentes en ce qui concerne le management du gouvernement, un gouvernement de combat, un gouvernement rétréci, un gouvernement moins budgétivore. Donc voilà, en fait, en quelque sorte, les faits réels que nous attendons, mais en réalité... aujourd'hui, on ne sait pas le juger sans qu'il puisse poser des actions, parce qu'il y a beaucoup de préjugés tout autour de sa personne, et ces préjugés seront dissipés, je le répète encore, quand il va mener ses premières actions.
Merci Thierry Bouongo, Jean-Pierre Moutamba, ton presque homonyme, hein, Jean-Michel Sama, on le présente comme quelqu'un qui a les compétences qu'il faut. En ce qui concerne la personnalité qu'il faut pour la fonction de Premier ministre, il faudra peut-être encore attendre pour pouvoir l'évaluer. Mais pensez-vous qu'il sera à la fois ce technocrate bien inspiré qui pourra mener le pays et cette personne libre hein, de ses mouvements, mais aussi en harmonie de travail avec le président de la République comme souhaité?
Nous avons tous appris ici la nomination de Jean-Michel Sama C'était une surprise à peu près, comme vous l'avez dit, l'oiseau rare du président de la République, parce que nous tous, on s'attendait à des politiques qui ont déjà fait des noms, des renoms, depuis après l'indépendance, comme on s'est habitué. Il nous est présenté un candidat dont, plus particulièrement ici dans le Sud-Ouangui, on ne les connaissait pas. Moi, je l'ai connu, par exemple, en 2015, parce que je suis aussi le président des journalistes sportifs. Mais, et puis, en parcourant un peu le CV de Sama, nous accordons un peu de bénéfices des doutes là-dessus, parce que ça serait un peu tôt de commencer à juger Sama, bien qu'il nous reste 2 ans et demi presque. Je suis optimiste dans ce genre-là, que s'il y a la volonté quelque part, même dans 6 mois, même dans 1 an, on peut faire quelque chose. Mais ce que nous sommes en train de vouloir, ce que la population veut, et que le président de la République ne puisse pas répéter les discours que nous avons attendus il y a 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, nous avons attendu des discours du genre « Je suis bloqué, il y a blocage » parce qu'il y avait une coalition qui ne disait pas son nom. Entre autres, SCCK, il y avait un deal où le peuple congolais ne connaissait pas et que jusqu'à présent, jusqu'à l'enterrement de cette coalition fictive, on ne savait toujours pas les deals. Et nous ne voulons pas que l'apparition de Sama, qui est du côté qui est aussi jeune, que ça puisse aussi, que le même discours puisse se répéter. La population en a marre, vous savez. Depuis les élections de fin 2018, la situation économique de la population est quasi chaotique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je tiens aussi à répéter et aussi à rappeler le Premier ministre lors de l'interview que nous avons vu sur, nous avons écouté sur la toile lorsqu'il a été nommé, quand il disait que Kinshasa était contraire au Katanga, parce qu'au Katanga, il y avait des gens qui travaillaient, tout ça. Nous voulons qu'il transforme également la République démocratique du Congo, qu'il transforme Kinshasa, que les gens ne rêvent pas, que les gens aient d'emploi. Parce que les Congolais, nous sommes entre des millions de Congolais, plus de 80 millions, et il y a beaucoup qui sont en chômage. Et aussi, la vieille pratique de rétrocession, la vieille pratique-là, qui a gangréné presque tous les secteurs de la vie en République démocratique du Congo, que cette vieille pratique disparaisse normalement. Et nous attendons aussi à Jean-Michel Sama qui puisse normalement redorer les blasons ternis de ces pays étant jeunes aussi, qui puissent s'occuper, bien qu'on dit, on le dit souvent, nous avons de l'expérience, les jeunes ne s'aiment pas le plus souvent, et quand on est au pouvoir, et des fois on oublie totalement qu'on est jeune, on doit aussi rénover la classe politique. Donc les Congolais est assoiffé, et ça fait plus d'une décennie aujourd'hui que les Congolais n'ont pas de travail, les Congolais n'ont pas de l'eau, les Congolais n'ont pas d'électricité. Donc, tous ces verbiages, des discours, nous n'en voulons plus, qu'il prouve qu'il est réellement technocrate. Les technocrates ne parlent pas beaucoup, mais ils travaillent sur le terrain.
Jean-Pierre, Jean-Pierre, puisque vous avez ouvert la voie des attentes, pour conclure avec vous sur ce premier sujet, selon vous, vous recommanderez au Premier ministre Sama d'ériger un gouvernement de combien de personnes, et quel est, selon vous, de manière très rapide, hein, le profil que devraient avoir ces ministres?
En tout cas, pour moi, si Sama Michel a besoin de la population, qu'on ait un gouvernement de moins de 40 personnes. Les gouvernements budgétivores, là, de plus de 60 ministres, ça sert à quoi? On prend par exemple le ministère des Sports, il y a un ministre des Sports, il y a un ministre de Culture, tout ça. Patati patata. Ça ne sert à rien.
Alors, et le profil des ministres, justement?
Allô?
Le profil des ministres, quelles sont les qualités que vous aimeriez voir chez les ministres du gouvernement Sama?
J'aurais préféré que, comme il a été nommé, il n'est pas un très grand politicien comme les autres le pensaient. mais il est politicien, il est plus travailleur, qui puisse, à ce stade, recruter plus les technocrates, c'est-à-dire que les travailleurs, en lieu et place de politiques qui ne cessent qu'à la longueur de la journée, recruter leurs frères et sœurs dans des bureaux. Hein? Donc, qu'on puisse recruter plus de technocrates,
Que des politiques.
Une taille minimum
d'une quarantaine
réduite,
une quarantaine de membres.
Et suivi.
Merci.
Donc, le problème de notre pays, c'est le suivi.
Merci Jean-Pierre Mutamba. Thierry Bongo, la même question. Quelle taille souhaitez-vous voir le gouvernement Sama et quel est selon vous le profil des ministres?
Je partage l'avis de mon confrère, M. Duvangui, qui travaille dans...
Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, Thierry?
Je partage justement l'avis de mon confrère, Duvangui, en disant que voilà, il faudrait un gouvernement assez réduit. Un gouvernement de 40 ministres serait plus à propos dans le contexte actuel, le contexte économique actuel très difficile que traverse la République démocratique du Congo. Nous sommes, vous le savez très bien, dans une situation difficile en termes de ressources dans nos caisses de l'État.
Mais est-ce que c'est tenable? C'est tenable quand on connaît les pesanteurs du genre la géopolitique, les ramifications politiques et tout ça.
Je crois que ce sont des donnes qui n'ont pas marché en République démocratique du Congo et qu'il ne faut pas avoir honte de les laisser. La géopolitique peut se faire sur 40 ministres. Hein, le partage en ce qui concerne les postes de responsabilité avec les partenaires peut se faire avec 40 ministres. On peut le faire. Et puis, il faut savoir qu'il faut arrêter de donner un signal ou une image à la population, à ceux qui nous suivent partout dans le monde, qu'à chaque fois qu'il y a changement de gouvernement, c'est l'heure du partage de gâteaux. C'est vrai que les forces politiques qui ont lutté pour que l'union sacrée soit mise en place doivent se retrouver. Mais il faut qu'on puisse avoir un peu de décence, un peu plus d'honneur en ce qui concerne notre manière de faire et ne pas présenter à la face du monde un gouvernement gâteau, un gouvernement partagé. Donc, 40 ministres seraient importants. On doit fusionner certains ministères. Je ne vois pas pourquoi on doit avoir un ministère de affaires foncières divisé avec celui de l'aménagement du territoire ou de l'habitat. Hein, on peut fusionner un ministère de l'environnement et du tourisme, un ministère de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique, par exemple. Donc, en fait, la réalité est que les postes ministériels répondent à des donnes politiques et, en ce moment, la donne économique est plus importante que la donne politique. Les politiques doivent s'affranchir de cela, mettre de l'eau dans leur vin. Il n'y a pas que le gouvernement dans ce pays. Il y a des entreprises publiques, il y a des ambassades, il y a cela, où on peut caser les siens les uns et les autres.
Merci.
En ce qui concerne le gouvernement, nous voulons un gouvernement à taille réduite. Il y a toute une administration qui fait le travail technique qui va accompagner ces membres du gouvernement. Les politiques sont des managers. On n'a pas besoin qu'ils soient nécessairement tous des technocrates. Nous avons besoin de bons managers, des personnes qui peuvent impulser des idées au chef de l'État, au chef du gouvernement pour atteindre ses objectifs.
Et donc,
en ce qui me concerne, mes attentes à moi particulièrement, se situent dans pas grand-chose, parce qu'on ne peut pas demander à un gouvernement qui va faire 2 ans et demi de pouvoir se transformer l'eau en vin. Donc, en réalité, pour ce qui concerne la RDC, nous avons besoin que le Premier ministre s'attelle sur les réformes électorales, les réformes politiques importantes, afin que nous puissions avoir des élections, de véritables élections en 2023. Nous voulons qu'il puisse redresser la courbe économique par, justement, qu'on puisse resserrer la rigueur des gestions des finances publiques en se mettant sur les rails de l'IGF qui contrôle tout ce qui est dépensé par l'État, par les personnels de l'État. Un gouvernement qui va continuer la vision du chef de l'État en ce qui concerne la justice. On veut voir vraiment les responsables de détournement de deniers publics, de coulage de recettes, entrer en prison. C'est ce que nous voulons.
Merci.
C'est un signal fort qui sera donné à la population.
Merci.
Et la lutte contre la punité. Voilà.
Merci Thierry Bongo. Nico Faimbikai, un peu de mots. Je sais que vous aimez les choses pratiques, mais est-ce que vous pensez justement que le profil de Sama pourra obéir justement à ces attentes d'une quarantaine de ministères seulement et préférer beaucoup plus les technocrates, des managers à la place des politiques dans les postes ministériels?
On se comprenne. Oui, dans ce pays, les premiers ministres sortants, c'est un professeur d'université. Et il y a un parcours professionnel élogieux. Vous l'avez fait partir dans les conditions que nous connaissons. Mais maintenant, on nomme encore un autre. Vous voulez encore nous rebondir dans des histoires des profils et consorts. Entre-temps, est-ce que les temps jouent en faveur de mon peuple? On tue les gens tous les jours. Est-ce que vous en parlez? Vous voulez qu'on ne parle même pas des situations sécuritaires, situations alimentaires des Congolais? Il y a les plus galopes tous les jours. Vous voulez qu'on se mette à épiloguer sur les profils consorts? Si les profils posaient problème, pourquoi n'avez-vous pas laissé un professeur? Alors, si vous avez estimé de remplacer un professeur par un licencié, laissez-les faire le travail. Moi, je n'aimerais pas qu'on revienne encore sur la procédure. Il est déjà là, il est le premier ministre du Congo. Qu'il se mette au travail, qu'il rencontre les besoins de la population.
Merci, Nico
Faye. Qu'il rencontre les besoins de la population.
Nico Faye Mbikaye, vous nous interpellez tout à l'heure sur est-ce qu'on parle de la vie des gens, les gens se font tuer tous les jours. Je ne vous ai pas répondu, alors le moment de vous répondre est arrivé. Nous entrons maintenant dans le deuxième thème de notre sujet. Justement, ce sujet évoque les choses qui vous intéressent. On se rend directement dans le Haut-Katanga où la capitale Lubumbashi a failli dimanche dernier sombrer dans le chaos avec l'attaque des dépôts d'armes menés selon l'armée par le mouvement sécessionniste Bakatakatanga. D'après le communiqué publié ce même dimanche par l'armée, le bilan faisait état de 12 rebelles tués et 5 capturés, 7 armes individuelles et 4 armes collectives saisies, mais aussi des bombes, des chargeurs et des lance-roquettes. Retour sur ce qui s'est passé dimanche avec Jean Gandou.
24 heures après l'incursion des miliciens Bakatakatanga dans la ville de Lubumbashi, ce lundi matin, la capitale du cuivre a repris son ambiance habituelle. L'incident de ce dimanche est le énième d'une longue série. À ce propos, plusieurs questions taraudent les esprits. Qui sont les commanditaires de ces miliciens qui mettent en mal la sécurité de la ville? Combien sont-ils? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs revendications? Comment comprendre la facilité avec laquelle ils infiltrent la ville? Où vont-ils se réfugier chaque fois qu'ils sont repoussés par les forces de l'ordre? Et pourquoi les services de sécurité ne prennent-ils pas le devant pour contrer toute velléité des forces négatives? Encore que l'incident de ce dimanche était précédé d'une alerte faite sur les réseaux sociaux invitant les autorités à la vigilance car une attaque de la ville était planifiée pour ce jour. Ces questions, comme beaucoup d'autres que la plupart se posent, demeurent pour l'instant sans réponse. Et dans tout le cas, c'est la population civile qui en paye le lourd tribut. Ce qui est tué des troublés et certains d'entre ses membres sont chaque fois fauchés par des balles perdues et la psychose gagne du terrain. Au regard de tout ceci, l'ONG de défense des droits de l'homme, humanisme et droits humains suggère la réorganisation du système de sécurité. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Merci Nico Faye Mbikaye, journaliste au groupe de presse Le Monde et Top Média paraissant à Kinshasa. Vous voulez justement voir les choses avancer. On parlait du Premier ministre tout à l'heure qui vient à peine d'arriver. Il va peut-être nous écouter sur ce cas particulier des événements qui ont eu lieu dimanche dernier dans le Haut-Katanga. Quelles sont les informations que vous pourriez donner comme ça à l'opinion sur les raisons de ces tueries et déstabilisation à répétition dans le Haut-Katanga et toujours régulièrement par les Bakatakatanga?
Oui, estimé Dona, nous devons nous mettre en tête que tout homme est tenté toujours d'aller vers le mal. Avant le 16e siècle, on ne parlait pas État. On a commencé à parler État vers la fin du 16e et début du 17e siècle. Et lorsque l'on créa l'État, l'État était dépourvu des polices et de l'armée. On se résolut que l'État ne peut pas demeurer sans police dans les instruments de dissuasion. C'est ainsi qu'on créa la police et l'armée. La seule personne au monde dotée du monopole de contraintes physiques sur un territoire donné, c'est l'État. Tout ce à quoi on assiste, c'est parce qu'il y a l'absence totale de l'autorité de l'État. Toutes les provinces du Congo aujourd'hui sont gangrénées, rongées par l'insécurité. Vous voyez que ce qui se passe à Lubumbashi et à l'Est, à Mbujimayi, il y a le phénomène kidnapping. Mais aujourd'hui, on kidnappe les gens, on demande la rançon aux familles. 500 dollars, 500 dollars plus 100 000 francs. Vous en parlez de moins en moins. Dans le Kananga, il y a l'insécurité totale. Alors, là où il n'y a pas l'État, vous voulez que ça se passe comment? C'est l'anarchie qui se passe.
Alors,
c'est là qu'ils sont censés rétablir l'autorité de l'État. sont dans autre chose que ce à quoi le peuple les attend.
Alors, Niko Faimbikaï, puisque vous mettez le doigt là où, selon vous, il y a le mal, comment justement, une bonne fois pour toutes, résoudre ce problème d'insécurité et instaurer ou imposer définitivement la paix? Parce que vous reconnaîtriez avec moi que si dans les régimes passés, il y a eu aussi quelques moments d'insécurité, c'est surtout ces 10 dernières années que le phénomène a vraiment explosé dans le modèle qu'on lui connaît aujourd'hui.
Je vous ai dit que l'État est une organisation politique.
Alors, comment est-ce que l'État de la RDC... comment est-ce que l'État de la RDC, soyons concrets, c'est ce que vous aimez, comment est-ce que l'État actuel de la RDC peut résoudre ce problème une bonne fois pour toutes?
L'État ne peut imposer la paix que par la puissance de fait supérieurs. Mais malheureusement, ceux qui sont censés le faire sont dans autre chose. Ce qui leur intéresse, c'est quoi? Ce sont les postes. Voyez comment la célérité, voyez l'empressement, les énergies que les autorités donnent, mettent en action lorsqu'il s'agit d'un poste. L'affaire Malonda, il y a eu combien de morts? Pas plus longtemps que l'année passée, au mois d'avril, lorsque les membres de Bundu Jamayal ont marché dans le Congo central, ils ont été réprimés dans le sang. On les a enterrés l'année passée. Nous disons, en vertu du principe de proportionnalité de force, pourquoi les mêmes énergies, la même puissance de feu que l'on voit lorsqu'il s'agit de réprimer les manifestants pacifistes, on ne déploie même pas les mêmes moyens pour ceux-là qui viennent avec les armes pour décimer ma population? Mais vos autorités sont ailleurs. Ce qui les intéresse, ce sont les postes. Ils se distribuent l'argent des Congolais. Ils corrompent les députés et consorts au moment où nos militaires qui sont au fond ne sont pas rémunérés, ne sont pas motivés à la hauteur des événements.
Merci, Niko Faimbikaï. Merci Niko Faimbikaï. Thierry Bongo, journaliste et analyste politique, pensez-vous justement que ce énième désordre apporté par les Katakatanga dans le Haut Katanga est l'œuvre d'une complicité, un peu comme semble l'évoquer Niko Faimbikaï tout à l'heure, ou avez-vous d'autres explications à donner pour expliquer ce phénomène?
Donald Madimba, l'erreur de Félix Tshisekedi à la session du pouvoir, c'était de ne pas fouiller dans le passé. Le passé de la RDC réserve beaucoup de cadavres dans nos placards. Garde beaucoup de cadavres dans nos placards. L'histoire du Katakatanga a commencé bien longtemps. Vous avez vu que l'ex-président Joseph Kabila a pratiquement donné un passe-droit à leur chef anthologique, Gédéon Kyungu. Et vous arrivez au pouvoir, vous dites, voilà, vous n'avez pas fouillé dans le passé, vous pensez que les problèmes du passé vont se résoudre au sommet. Non, c'est faux. Félix Tshisekedi a commis l'erreur de dire à ces gens que je vais vous laisser vivre en paix malgré vos exactions et que vous-même continuez, je ne m'en occuperai pas. Maintenant, le Katakatanga va ressurgir. Et il ressurgit quand? Vous avez suivi qu'avant cela, il y avait une vague de propos tout à fait désobligeants de certains ténors du Katanga. Je cite par là le pasteur Ngoy Mulunda. Et vous savez ce que ça en a suivi. Ce qui a été suivi, c'était une sorte de levée de bouclier de certaines associations katangaises pour dire voilà, nous au Katanga. Non.
Et selon vous, comment on peut mettre fin une bonne fois pour toutes à ce comportement, à ces ramifications, etc.
J'ai eu la petite chance de revenir il n'y a pas plus de 2 semaines du Katanga. J'ai fait le loi là-bas, j'ai fait le Lubumbashi, j'ai fait cette province pendant pratiquement 3 semaines. Mais l'esprit, l'état d'esprit de certains Katangais est de penser qu'ils sont en train de tout donner à la République et que la République ne leur donne rien. C'est une question sur laquelle les dirigeants doivent se pencher. Qu'est-ce que réclame le Katangais pour se considérer être exploité par la République et ne rien recevoir d'elle?
Est-ce que c'est pas un caprice, Thierry Bongo? Si on considère, je ne veux pas entrer dans ces guéguerres-là, mais si on considère que le président sortant était du Katanga et qu'il a régné pendant 18 ans, en principe, les Katangais devaient tout avoir, non?
Mais il y a eu un président qui était de l'Équateur qui a régné pendant 32 ans. Mais à quel état se trouve l'Équateur? Mon frère qui est en train de parler de Soudoubangui, c'est à peine qu'on commence à élargir les routes.
Avez-vous entendu les gens de l'Équateur dire que voilà, il faut qu'on coupe l'Équateur parce que le président sortant, il fait 32 ans et il doit rester. Je crois que c'est un faux fuyant. Je crois qu'il y a beaucoup de fausses informations qui sont distillées par les notables du Katanga sciemment vis-à-vis de cette population. Et ces gens du Katanga sont des gens manipulés, manipulés sur fond de pauvreté
et
de désinformation.
Merci.
Aujourd'hui,
Thierry.
Aujourd'hui, le président de la République, qui a décidé de ne pas fuir dans le passé, doit se revifier pour donner la vraie justice, une justice qui va prendre ses racines dans tous les actes passés.
Et notamment sanctionner justement ceux qui le méritent. Merci Thierry.
Le passé qui est toujours dans les oreilles de l'avenir, cher frère.
Merci Thierry Bongo. Jean-Pierre Mutamba, éditeur en chef de l'hebdomadaire Vox Ubangi et correspondant du média en ligne Dépêche.cd, province du Sud Ubangi. Justement, Thierry a essayé un peu de mettre la puce à votre oreille, mais quand vous regardez ce qui se passe au Katanga avec ce phénomène de Bakata Katanga, quelle explication avez-vous pu tirer de ce phénomène?
En tout cas, Donat, nous, ça nous étonne. Est-ce qu'il y a une province en République démocratique du Congo qui est privilégiée que d'autres provinces? J'ai rejoint mon confrère qui a parlé de Bakongo. Comment on tait les miliciens de Boudou du Congo? On le tait, on le réprime, on le tranquillise. Mais cette histoire de Bakata Katanga, ça fait au moins, si c'est 10 ans maintenant, au moins chaque trimestre, il y a des failles dans les normes sécuritaires dans le Grand Katanga, plus précisément au niveau de Haut Katanga. Nous devons le dire en vérité. Nous devons le dire en face. Comment on doit privilégier une province comme ça parce qu'ils sont, je ne sais pas moi. Comment l'État congolais, qui est garant de la sécurité et de la paix, n'arrive pas à maîtriser un groupe de gens Bakata Katanga et qui s'érige en force, qui entre dans une ville en plein boulevard et qui opère, et qui n'opère pas seulement une fois par an, ils peuvent opérer 50, 10 fois par an. Et l'État n'arrive pas à arrêter cette hémorragie.
Alors, Jean-Pierre, justement pour vous,
on ne comprend plus rien.
Vous vous posez beaucoup de questions, c'est vrai, mais pour vous, la solution devrait être un peu comme tout le monde l'a proposé, l'usage de la force de l'État pour sanctionner ceux qui doivent l'être sanctionnés, l'être à la justice, ou carrément employer la force pour ceux qui ne veulent pas se rebiffer, c'est ça?
Moi, je pense autrement. Moi, je pense de récupérer ce qui était bon sous le règne du fait maréchal Mobutu. Veut dire que la politique des non-originaires, qu'on puisse délocaliser tous les services de sécurité, en commençant par les policiers, ils sont les amis de Bakata Katanga, l'armée qui est là, qui fait longtemps qu'il passe des temps, les comités de sécurité, l'ANR, DGM, tout ça, qui facilite les Bakata Katanga, qu'on utilise la politique du Mobutu, veut dire permettre tout ce monde de sécurité. Comment un groupe armé non identifié s'insurge en pleine ville et puis en plein dimanche et aussi et au vu des forces de sécurité. Et toutes ces forces de sécurité, quelle que soit la modalité des pays, toutes ces forces de sécurité sont régulièrement payées par l'État. Ils sont censés de vraiment de protéger la population et leurs biens.
Merci, votre idée a été totalement entendu, Jean-Pierre Mutanda. Je remercie aussi Nico Faimbikai et bien évidemment Thierry Bongo, Polydor Basunga, Alain Goy, Kélin Kouté et Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Donat Madimba, c'est moi à la présentation. Tribune de presse, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.